Ready?
Let's go!
Touchdown!
Ready, set, BPM, BPM, BPM!
Le Focus NFL.
Avec notre ami Mathieu Proulx qui est là. Comment ça va, mon Matt?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien, merci. Écoute, on n'a pas le choix de te poser la question depuis hier, là, mais je pensais jamais te poser cette question-là au grand jamais. Mac Jones, là, y es-tu pour vrai, lui-là? Là?
Ben, ce que ça nous prouve, cette situation-là, encore une fois, comme on a vu avec Sam Darnold, par exemple, l'année dernière, comme avec Baker Mayfield, avec les Bucks, c'est que la situation dans laquelle tu es mise comme carrière va dicter beaucoup plus du succès que tu vas avoir que du talent que tu as réellement. Puis je dis pas que y a pas de talent ou ils ont du talent. C'est juste de dire que c'est ça le football. On attribue les carrières générationnelles. On dit waouh, ils ont transformé une organisation. Mais l'organisation leur a donné aussi le pouvoir d'être solide. Patrick Mahomes a eu Andy Reid, Josh Allen a eu d'excellents entraîneurs puis une bonne structure autour de lui. Lamar Jackson a eu la même chose. Tu sais, il faut avoir une bonne structure autour pour avoir du succès. Puis c'est ça que ça prouve. Mac Jones, c'est un bon carrière. Il a du talent. Puis c'est un partant, à mon avis, dans cette ligue-là, lorsqu'il est dans une bonne situation. Je ne sais pas qu'il y a une controverse de corps avec les 49ers, puis on fait tout ce qu'on peut pour ne pas en partir une là-bas, mais il a joué avec beaucoup, beaucoup d'aplomb hier, puis il a été très inspirant pour ses coéquipiers, alors qu'il jouait avec un genou magané, il jouait sur une jambe. Puis il a lancé pour plus de 340 verges. Il a vraiment, vraiment été solide. Puis Kyle Shanahan l'a mis dans une position d'être solide. Alors, chapeau aux deux là, pour cette combinaison-là hier. C'était vraiment impressionnant comme performance.
Ouais, tu parles de Sam Darnold. On pourrait parler de Baker Mayfield aussi, qui a été coupé, on le rappelle, de deux équipes. Là. Après être parti des Browns de Cleveland, notamment. Là, il a été coupé de deux autres équipes pour se ramasser finalement avec les Bucks. Tout le monde riait. Il y a tellement de situations comme ça. T'sais, on élève des corps très, très rapidement et on en crucifie aussi très, très rapidement dans cette ligue-là parce que c'est tellement une ligue de résultats qui va vite. Mais des fois, un peu de patience. Puis il y a des formations chanceuses comme ça. Les 49ers qui perdent leur partant, perdu George Kittle, perdent Jawan Jennings, ont tellement de blessés. Mais finalement, ils sont capables de remporter des matchs avec Mac Jones au poste de corps. Ils ont eu la main chanceuse.
Ouais, ça, c'est honnêtement, c'est une des performances ou une des victoires les plus impressionnantes parce que les Rams, c'est une bonne formation. Puis hier, ça a été l'histoire de Mac Jones, puis ça a été l'histoire de quelques gros jeux en défense parce que Matt Stafford, il a lancé pour quoi 389 verges, puis 3 touchés. Puis les 49ers ont quand même gagné parce qu'ils ont provoqué un revirement à la porte des buts sur Kyren Williams qui s'en veut aujourd'hui. Et ils ont arrêté Kyren Williams à quatrième essai en prolongation. C'était un match complètement fou. Mais il y a quelque chose de Kyle Shanahan face à Sean McVay qui, historiquement, fait qu'il y a l'ascendant sur lui. Donc, vraiment une grosse, grosse performance hier des 49ers. C'est impressionnant. Un match de section, les deux étaient 3-1. Un match qui pourrait avoir des incidences au classement à la fin de la saison. Mais vraiment, les 49ers sortent de là, même s'ils étaient maganés, là, très confiants pour la suite.
Certainement. Puis on n'a même pas parlé de Daniel Jones non plus, qui est en train de connaître toute une renaissance avec les Colts.
Geno Smith a fait la même affaire. Il y en a plein d'exemples partout à travers la NFL de gars qui sortent de mauvaises situations. En fait, faut que tu sortes de New York. Quitte New York, tu vas trouver du succès. Quitte le MetLife.
Hey, attention, là. On va parler de Jackson Dart dans quelques instants, mais écoute. Je peux pas croire qu'on va parler des Browns plus que 30 secondes, là, mais est-ce que Dylan Gabriel pourrait faire la même chose justement que Jackson Dart la semaine passée?
Ben, commençons par le fait que les Browns n'ont pas marqué plus de 17 points dans 9 matchs de suite, que Joe Flacco a une moyenne à peu près 5 verges par passe, 2 touchés, je pense 7 ou 9 interceptions. Ça peut pas être pire. T'sais, à un moment donné, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu provoques une étincelle, tu n'avais pas le choix. Est-ce que c'est parce que Dylan Gabriel est incroyable en pratique? Non. C'est parce que notre attaque, ça va nulle part. Mais j'ai quand même l'impression que ce gars-là peut avoir du succès. Pourquoi? Moi, quand je regarde des jeunes qui entrent dans les pros, je regarde le volume universitaire. Est-ce que c'est des Mitch Trubisky qui ont eu une saison puis on pense qu'à cause de ça, ils vont être bons? Non. Dylan Gabriel, là, il a 63 départs. 63 départs au niveau universitaire. Je savais même pas que c'était possible. Il a joué 6 saisons, il a joué 3 programmes. Je comprends, tu sais, avec tous les règlements puis la COVID qui est arrivée, il y a eu 63 départs universitaires. Fait qu'il y a du volume, le gars. Il y a de l'expérience, il a joué dans différentes situations. Il a bien paru dans les matchs préparatoires. C'est un petit carrière, c'est un carrière gaucher. Mais je pense qu'il ne peut pas faire pire que Joe Flacco. Est-ce qu'il va aller là puis allumer, tu sais, la défense? Je pense pas. Et surtout qu'il le fait contre les Vikings de l'autre côté de l'océan. ça risque d'être compliqué, mais je pense qu'il va nous impressionner, ce jeune-là. Mais il y a quelque chose chez les Browns qui me fait douter, parce que c'est les Browns. Mais Dylan Gabriel m'inspire quand même confiance, genre de voir ce qu'il va faire.
Puis il y a l'adversaire pour le faire aussi, Matt, là, parce que les Vikings, ça va pas, là. Mais
ouais,
vraiment
ça va
pas.
Ouais, mais défensivement, ça reste quand même une bonne défense. Donc oui, offensivement, t'as des problèmes sur la ligne à l'attaque, t'as différentes problématiques sur cette équipe-là, mais c'est quand même une défense qui peut donner des problèmes, puis qui présente beaucoup de différentes stratégies défensives. Brian Flores, face à un jeune carrière, va envoyer plein de différentes formations, plein de différents blitz, plein de choses que Dylan Gabriel n'aura jamais vues. Et c'est à lui, donc, à dénicher puis décoder ce qui se passe devant lui pour pas faire d'erreur. Puis ce que j'espère, c'est que son coach, Kevin Stefanski, le met dans des situations optimales. Il fallait pas garder le ballon 5-6 secondes dans ces zones profondes. Comme Jackson Dart, en fait, a fait la semaine dernière, même genre de plan de match, appuie avec un jeu au sol puis espère pour le mieux face aux Vikings.
Dans 10 minutes, Max Talbot, Bruno Gervais s'en viennent pour le premier segment, les mangeux de puck. En continu, là. On n'a pas de pause qui s'en vient. On continue avec Matt et après ça, ce sont nos deux amis qui s'en viennent se coltailler dans les mangeux de puck. Donc, manquez pas ça, mais tu me parlais...
Est-ce qu'ils se coltaillent vraiment les deux?
Oh, oui, ouais, ouais, absolument.
C'est tellement bromance leur affaire.
Ouais, Bruno Gervais mettait ses épaulettes la dernière fois. Là.
C'est vrai?
Dans son salon, ouais, il avait ses épaulettes d'hockey. C'est vraiment un segment à pas manquer.
Ce qui est drôle, c'est que Bruno a l'air du plus sérieux, puis Max du plus bouffon, mais ouais. Au final, c'est un peu le contraire. Là. Bruno n'est pas très sérieux, puis Max, il faut le prendre au pied de la lettre, ce qu'il dit. Trompez-vous, là. C'est comme des personnages un peu curieux, ces deux-là, mais il ne faut pas les prendre pour ce qu'ils sont à la face même. Il faut aller creuser là, pour dénicher c'est qui ces vrais personnages.
J'adore ça. Mathieu Proulx nous révèle les dessous de RDS. C'est pas
exact.
Ça. Ça va se ramasser d'un article à potin hein, quelque part. Ça, là. Matt, tu parlais de Jackson Dart. Là, ça fait une semaine que je me tiraille avec moi-même.
Ouais.
Est-ce que je m'achète un jersey de Jackson Dart? Là? Est-ce que je me dis, s'il gagne en fin de semaine, là, les Giants sont repartis, puis il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe à New York pour la première fois depuis Eli Manning, tiens.
Ben... Écoute, c'est un bon adversaire. Je pense que les deux s'affrontent. Tu sais, ça doit être intéressant parce que les deux bases de partisans s'affrontent et disent « Ah, c'est finalement un adversaire qu'on peut battre. » Tu sais. Ou finalement une victoire, les Giants contre les Saints. Puis pour les Giants, après ça, c'est les Patriots. Après ça, c'est les Bears. Fait que c'est pas un immense calendrier. Là. Fait que c'est une bonne séquence. Pardon, ça, c'est les Saints qui jouent de même. Mais pour les Giants, jouer contre les Saints avec Jackson Dart, je pense que, sincèrement que ça va être une autre performance. Correct, dans le sens où c'est une bonne performance. Encore une fois, je m'attends pas à rien d'extraordinaire, je m'attends pas à 300 verges, je m'attends pas à 100 verges au sol, mais je m'attends à un carrière qui joue à l'intérieur du système. Il joue avec beaucoup de confiance, clairement il comprend ce qu'on lui demande de faire. Clairement, c'est un carrière partant dans la NFL. Je pense que c'est une autre occasion pour lui de démontrer ça, parce que ce que je regardais, c'est le calendrier, là, j'étais comme, mais ça, c'est pas ça le calendrier, parce qu'après ça, les Giants, là, ils affrontent les Eagles, les Broncos, les Eagles et les Niners. Ça, c'est les quatre prochaines défenses qu'ils vont affronter. Là, on va vraiment voir de quel bois il chauffe Jackson Dart. Puis j'ai hâte de voir maintenant que les équipes ont des bandes vidéo, savent un peu ce qu'il aime, ce qu'il fait. Est-ce qu'on va être en mesure de mieux le défendre? Les Saints, c'est pas une grosse équipe, mais c'est une équipe qui joue mieux que ce que leur dossier indique. Là. C'est une équipe qui
ils m'ont surpris la semaine passée. Moi.
Ouais, c'est une équipe qui se bat bien. C'est dommage pour Spencer Rattler. Il joue pas mal, mais pas capable d'accumuler des victoires. Mais c'est une équipe qui va se battre et qui va donner du défi. Là. Il va donner un bon défi à Jackson Dart, mais je pense que tu peux aller t'acheter ton jersey. Juste parce qu'il est beau, puis juste parce que c'est écrit Dart.
Bon, c'est approuvé par Mathieu Proulx.
C'est
fait.
C'est réglé. Go for
it. C'est tout ce que j'avais besoin. Puis là, t'as parlé en termes élogieux d'un corps arrière à New York, puis t'as dit qu'il y avait un beau chandail. Ça a fait rare les bends. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais d'ailleurs, ce sera tes prochains adversaires. J'ai hâte de voir ça. Imagines-tu le upset si les Giants battent les Eagles dans la division? Ça serait formidable.
Mais non. Arrêtez de nier. Ça allait bien, là.
Matt, as-tu trois duels là, que tu suis en fin de semaine? Tu dis ces matchs-là, soit ça pourrait être une grosse surprise comme on en a eu plusieurs la semaine passée, parlez-en à bien du monde qui était dans les Survivor, et j'ai bien dit « était », ou encore des duels au sommet que tu vas suivre.
Là. Ben, le premier, c'est justement, ça implique les Eagles. Les Eagles contre les Broncos, c'est vraiment intéressant. Parce
tout
que,
un match.
Y a-tu une équipe de 4-0 qui a plus de grogne, plus de critiques, qui a plus de... C'est plus de bizarre de vibe autour de l'équipe que les Eagles. C'est très curieux, tu sais. C'est un problème de riche, là, d'être 4-0 puis de critiquer certaines affaires qui se produisent. On trouve des façons de gagner puis c'est ça qui compte. Peu importe comment on le fait, que ce soit des unités spéciales, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Donc, ce match-là, j'ai hâte de voir parce que Bonix a comme pris son envol, mais c'était contre les Bengals. Donc là, j'ai hâte de voir contre une bonne défense, tu sais, les Eagles, qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire. Est-ce qu'on va être patient parce que Vic Fangio va forcer Bonix à aller dans les zones courtes? Est-ce qu'on va être capable de courir comme on l'a fait avec J.K. Dobbins? Puis de l'autre côté du ballon, ben c'est pas une très bonne défense là, pour relancer ton attaque aérienne. On est capable d'attaquer le corps. Je pense qu'on est premier pour les sacs du corps avec 15 depuis le début de l'année. Puis tu as des excellents demi-coins qui vont, en tout cas, donner du fil à retordre à A.J. Brown devant T. Smith. Donc, si c'est encore ça, puis on n'est pas capable de lancer notre attaque aérienne, est-ce qu'il va y avoir encore plus de grogne? Donc ça, c'est très certainement un match que je vais suivre avec beaucoup d'attention.
Avec raison.
Ben oui.
Ouais.
Ça va être tout un duel.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, qui gagne ça?
Moi, je prends les Broncos.
Ben, moi, je suis pas objectif, là, mais moi, je pense que si les Eagles jouent 4 quarts et non 2, ben là, les Eagles vont gagner.
Ben moi, j'ai pris les Broncos pour gagner la division. Fait que là, si tu perds encore un autre match, là, je veux dire, ça commence à être dur là, de remonter à la pente à 2-3, rendu là. Ouais. Donc,
tu sais, Saquon ne joue pas un bon début de saison.
Hey, écoute, l'attaque, les gars, là, sont 30e pour les verges, 31e par la passe, 15e au sol.
Non, c'est pas
pour l'attaque qui est supposée être redoutable. Tu sais, Barkley ne se met pas en marche.
C'est
un peu la même chose. T'sais. Mais c'est une équipe que tu regardes, les gars, tu dis, à un moment donné, ça va cliquer.
Ben, c'est
pas vrai, là. Ils ont des bons coachs, ils ont du talent. C'est juste que là, ça clique pas. Mais à un moment donné, ça va cliquer, puis t'es content que t'es 4-0 quand ça clique pas, parce que quand ça va partir, la machine,
ben,
là,
c'est ça va être dangereux. T'sais, tu joues mal, t'as gagné quand même. Les gars, vous le savez, puis Ben, je veux pas critiquer ton équipe, mais tu peux pas continuer à faire ça dans cette ligue.
Non, c'est certain, il faut que tu te ressaisisses.
Donc, à un moment donné, ça te prend une petite tape, et d'après moi, ça va arriver en fin de semaine contre les Broncos. Hey, peut-être un autre duel, mon Matt?
Ben, juste Buccaneers-Seattle. Buccaneers-Seahawks, c'est un gros match. Les Seahawks, c'est peut-être la meilleure équipe dont on parle pas. Là. Après une défaite chaudement disputée contre les Niners au début de la saison, c'est 3 victoires de suite. Darnold a l'air de plus en plus confortable. Tu sais, la ligne à l'attaque, ça a toujours, depuis 15 ans, là, c'est un problème avec les Seahawks. Là, elle est potable. T'sais, je dirais même pas qu'elle est bonne, elle est potable. Puis juste ça, c'est assez. Parce que t'as un jeu au sol quand même avec 2 bons porteurs, avec Kenneth Walker, Zach Charbonnet dans le champ arrière. T'as un excellent receveur en Jackson Smith et Jigba. Puis après ça, t'as peut-être, en tout cas, dans la discussion pour la meilleure défense de la ligue. Fait que cette équipe-là, elle est redoutable. Puis là, on fait face aux Bucks qui sont privés de plusieurs joueurs. Là, on apprend que Bucky Irving risque de pas jouer le match. On sait que Mike Evans sera pas là. Il y a des blessures sur la ligne offensive. Mayfield, là, on l'ensemble, ça va bien, quelle saison, tout ça, mais il y a juste une interception, mais il y aurait peut-être pu en avoir 4, 5, 6 à sa fiche. Fait que lui, il faut qu'il protège le ballon, mais j'ai hâte de voir parce que tout repose sur son bras pour ce match-là.
Ouais.
Alors, contre la défense des Seahawks, j'aime pas ses chances. Je vois les Seahawks l'emporter dans cet affrontement-là.
On va suivre ça certainement. Puis la beauté, c'est qu'on se reparle de tout ça dès lundi. Il y aura certainement des surprises. Merci, Matt. Passe un très, très beau week-end. Puis on t'écoute à RDS.
Merci. Bon week-end à vous aussi.
Salut, mon chum.